faire de nous des citoyens électroniques. Et ça, c'est important parce que ça recouvre à la fois l'aspect sécuritaire, c'est-à-dire oui, on va donner des cartes d'identité électroniques aux gens, soi-disant pour lutter contre le terrorisme. En fait, c'est pour lutter contre l'immigration clandestine et pour pouvoir mieux gérer les flux de personnes. Mais il y a aussi l'aspect qui est que oui, les industriels ils ont vraiment très très bien réussi à faire en sorte que nos vies soient complètement envahies par ces machines-là. Et quand on y pense, c'est fou parce que il y a beaucoup de gens qui ont une espèce de souci quand même pour l'écologie, ce que ça représente. Quand on regarde ces machines-là, comment elles sont produites, ce qu'elles deviennent, c'est étrange qu'on se soit tous laissés avoir. La biométrie, c'est un système qui permet d'identifier les individus avec des paramètres anatomiques. Par exemple, pour rentrer dans une cantine scolaire ou passer un portique, on va mettre sa main dans une machine, ou alors il y a des versions plus sophistiquées où on fait reconnaître l'iris de son œil pour être identifié. Ça se développe très très vite, et bientôt, on va sans doute avoir tous l'obligation d'avoir des cartes d'identité, des passeports biométriques, c'est-à-dire munis à l'intérieur d'une puce qui sera par ailleurs RFID, donc lisible à distance, dans lequel il y aura des données anatomiques. L'idée d'un certain nombre d'ingénieurs et d'un certain nombre d'administrations, c'est vraiment l'identité numérique, l'identité électronique. C'est-à-dire que on va passer à une nouvelle forme de citoyenneté, qui sera une citoyenneté fondée sur la reconnaissance informatique des personnes et donc automatique. Plus besoin d'avoir quelqu'un en face de quelqu'un d'autre.
On sent aussi sur un plan plus politique que les lieux de pouvoir tendent de plus en plus à s'éloigner des populations et de plus en plus à rentrer sur des modèles gestionnaires. C'est pendant toute la construction du modèle européen ultra technocratique où on voit que la politique se réduit de plus en plus à une question d'efficacité gestionnaire et qu'on essaie de dire voilà les idées, les valeurs, les histoires des mouvements politiques, l'histoire du mouvement ouvrier, toutes ces histoires, c'est terminé.
Bonjour, je m'appelle Karima, donc je travaille à l'heure actuelle dans une petite crèche, donc je suis en contrat, enfin un CAE, donc un bon petit contrat précaire avec tout ce qui va avec. Donc depuis maintenant 8 mois, et en fait j'ai eu une petite galère au niveau des acédiques, et ben, il y a en fait 1 mois et demi quand j'ai fait mon renouvellement de contrat. Donc tout s'est bien passé, mon employeur est allé aux acédiques, donc il n'y avait aucun souci. Et il y a environ, on va dire 3 semaines, 1 mois, bien, ouais, j'ai reçu en fait un papier des acédiques disant que j'étais radiée. Et le motif en fait sur le courrier était que ma carte de séjour était périmée, donc de ce fait, j'étais radiée des acédiques. Donc au début, ça m'a même pas amusé. J'ai rigolé, j'ai regardé le nom et le prénom en me disant si c'était bien en fait adressé à moi ou si c'était peut-être trompé. Donc c'était bien moi. Donc je me suis dit, je vais les appeler. Donc j'ai essayé de les joindre. Donc en fait, ça a été un peu. On s'est renvoyé la balle en fait entre les ACEDIC et la NPE. Donc ils m'ont dit en fait qu'ils ne comprenaient pas en fait pourquoi j'avais été radiée, que c'était plus par rapport en fait à mon contrat. Et en fait, quand j'ai essayé un peu plus de gratter, d'avoir des informations, on m'a fait comprendre qu'en fait, vu mon prénom et mon nom, Karima, c'était un peu normal que je reçoive un petit papier comme ça des acédiques. C'était en fait des lettres types qui existaient chez les acédiques.
Je l'ai bien observé pendant 15 ans. Il était dans sa chambre, il fixait le mur qui était devant lui sans le voir. Il ne voyait pas le mur. Il voyait cette nuit-ci totalement robotisée. Attendait devant moi le signal secret et silencieux qui allait le mettre en marche.
En France, en ce moment, il y a beaucoup de choses sur Baselef, c'est-à-dire ce nouveau logiciel. Il y a beaucoup de choses qui sont passées aussi à Toulouse là-dessus. Le nouveau logiciel qui permet de renseigner, de ficher les élèves de la maternelle à la terminale. Et ça, c'est vraiment symptomatique de ce à quoi nous réduit une société dans laquelle nous, on n'est plus que des prétextes à produire de l'information. Espèce de support comme ça, où finalement on est de plus en plus enfermé dans des déterminismes. Mais il y a aussi une espèce d'arrivée d'une figure qui serait celle d'un sujet presque le patient inconscient qui ne peut pas parler et pour lequel on a un système qui va permettre de tout savoir sur lui sans qu'il ait rien à faire. Et maintenant, quand on va chez le médecin, c'est un peu ça, parce qu'on arrive, on voit la secrétaire, on lui dit bonjour, elle dit bonjour, sortez votre carte vitale. Et ça, ça veut dire en gros, n'essayez même pas de m'expliquer ce que vous avez, j'en ai rien à faire. Moi, je pense que ce qu'il y a sur cette carte est beaucoup plus intéressant que ce que vous allez me dire, parce que c'est des informations, elles sont exactes, elles sont administratives.
Il n'est pas besoin de science-fiction pour imaginer un mécanisme de contrôle qui donne en chaque instant la position d'un élément en milieu ouvert. Animal dans une réserve, homme dans une entreprise, colis électronique. Félix Guattari imaginait une ville où chacun pouvait quitter sa rue, son quartier, grâce à sa carte électronique individuelle qui faisait lever telle ou telle barrière. Mais aussi bien la carte pouvait être refusée tel jour ou entre telles heures. Ce qui compte n'est pas la barrière, mais l'ordinateur qui repère la position de chacun, licite ou illicite, et opère une modulation universelle. Après Gilles Deleuze, post-scriptum sur les sociétés de contrôle.
Quant au bracelet mobile, bah lui, il a un certain nombre de conséquences qui sont effectivement de deux ordres. Il reprend des enjeux du bracelet fixe. Mais c'est aussi une conséquence importante, c'est que c'est la première fois qu'un pouvoir peut localiser, surveiller et aussi provoquer des effets de contrainte, des effets d'autodiscipline avec aussi peu de dépenses matérielles, de dépenses effectives d'énergie. Et c'est une révolution totale du modèle panoptique foucauldien. Parce que le modèle du panoptisme était un modèle de lumière et de matière. C'était la matière qui permettait de rendre quelqu'un totalement visible. Et donc il était forcément localisé, c'est-à-dire le panoptisme était par essence lié à un lieu, et à un lieu en l'occurrence fermé, à un lieu restreint. Avec ce type de dispositif, ce qui est possible, c'est de faire la même chose, mais sans aucune contrainte matérielle. C'est-à-dire n'importe où, et surtout, ce qui est très important, c'est comme si précisément ce panoptisme était devenu purement et simplement psychique, sans référence et sans référence matérielle. Et une prison, on pouvait lutter. Quand on voit une prison, on peut dire, ben voilà, là, des gens sont enfermés, même si la prison était en général une tâche obscure que personne ne voulait voir dans la ville, il y avait une présence. Eh bien là, il n'y a pas de présence du tout du pouvoir que la personne subit. Ce que la personne subit comme pouvoir, comme contrainte, comme punition, c'est quelque chose qui n'existe que pour elle, dans son esprit. Et pour les autres, rien. Et effectivement, le bracelet électronique mobile, là par exemple, c'est une extension. C'est une extension de la peine. C'est le suivi socio-judiciaire. Dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, c'est une extension de la peine. Et qui est basée sur un diagnostic de dangerosité dont personne, absolument personne, ne peut garantir la moindre, je ne dis pas un peu, je dis la moindre légitimité épistémologique.
L'affaire est d'autant plus tragique qu'ils étaient jeunes. Mais eussent-ils vécu très très longtemps, qu'ils ne se seraient attendus ni n'auraient souhaité une telle débauche de folie macabre que celle à laquelle ils assistèrent ce jour-là.
Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre.
Votre carte orange est désormais sur Pass Navigo. Soyez malin, adoptez le bon geste.
Salut, ça va ?
En 2004, la RATP commence à mettre en circulation le Pass Navigo en Île-de-France.
Dans la publicité, il n'y a pas de gros, il n'y a pas de vieux, il n'y a pas de noir, pas de blanc, pas de riche, pas de pauvre. Il n'y a que des minorités à fort pouvoir d'achat. On appelle ça aussi des cibles.
La météo avec le groupe CIC.
Bonsoir.
L'image du jour sur France 2 avec la Caisse d'épargne.
Madame, monsieur, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Caisse de France.
Répondre à la démarche spécifique de votre entreprise, garantir une prestation de qualité, devenir le partenaire d'ouverture et de dialogue, apporter des solutions avantageuses et rentables, tels sont les atouts dont dispose la Direction régionale des services pénitentiaires.
Il y a tous les nouveaux systèmes, et ça c'est vraiment de l'administration électronique, qui rendent la vie plus pratique, comme les nouvelles cartes de transport avec puces, les cartes de fidélité dans les magasins, les achats en ligne et tout ça. Bah, ça, pour les boîtes, c'est une manne, parce que c'est une manne d'informations sur nous, qui peuvent revendre ensuite, etc. Et ça participe de rendre les gens complètement captifs d'un système où ils ne peuvent jamais protester de rien, ils sont complètement impuissants. Et donc là aussi, même si ça paraît complètement anecdotique, nous on fait une campagne en ce moment à Paris pour que les gens refusent la nouvelle carte de métro qui va remplacer les tickets. C'est une carte RFID, donc effectivement, en plus tous les déplacements sont traçables. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on bip, on sait où la personne est rentrée et sortie. Dans des fichiers, ils peuvent le retrouver facilement. Ils doivent le céder à la police et tout ça. Donc on fait une campagne là-dessus. Mais quelque part, l'autre fois, en faisant cette distribution de tracts, je me disais, mais c'est bidon, enfin, il y a des choses plus graves, il y a le nucléaire et tout ça, pourquoi on passe notre temps à faire ça? Et non, enfin, c'est des choses anecdotiques, mais ça fait système, quoi. C'est prise toutes ensemble, ça fait que nous, notre statut politique, il devient encore moindre que ce qu'il était déjà.
Certains objets très courants, comme le pass Navigo pour les transports parisiens, et le passeport biométrique, commençait à intégrer des puces RFID sans que quasiment personne ne le sache. Alors la puce RFID, au départ, fonctionne un petit peu sur un mode comparable, dans le sens où elle a le même objectif, c'est-à-dire de communiquer des informations venant d'un objet. Simplement, au lieu que la lecture se fasse par un laser, un lecteur laser, comme avec les codes-barres, eh bien là, c'est par radio, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de véritable contact, ça se fait à distance. Et c'est un petit peu ce qu'on utilise déjà quand on ouvre une porte avec un petit badge qui lui aussi actionne à distance l'ouverture de la porte. Voilà, c'est cette technologie radio qui a tendance à se généraliser et dont les applications sont absolument infinies. C'est-à-dire que là, c'est l'exemple des produits de supermarché, est un tout petit exemple. On peut, pour donner une espèce d'éventail des applications, on peut parler par exemple des bracelets d'identification des enfants nouveau-nés, qui est une application qui se développe pas mal aussi et qui permet d'éviter de perdre ou de confondre les nouveau-nés dans un hôpital. Alors voilà, le problème de la radio, de la communication par radio, par rapport justement au code-barre, c'est deux choses. La première chose, c'est que l'information d'un code-barre est une information qui est figée. C'est-à-dire une fois qu'on a créé le code-barre, l'information ne peut plus être modifiée. Et c'est toujours la même information qu'on lira avec ce laser indéfiniment jusqu'à la fin de la vie du produit. Avec la radio, la différence avec les puces radio, c'est que l'information, elle est modifiable dans la puce. C'est-à-dire à tout moment, on peut intégrer de nouvelles informations dans la puce. Par exemple, si vous achetez un costume ou des chaussures, on peut, si ces produits portent une puce RFID, indiquer votre identité dans la puce qui auparavant ne la connaissait pas puisqu'elle était dans le magasin. Mais en sortant du magasin, la puce, elle, portera comme information supplémentaire votre nom, la date à laquelle vous avez acheté l'objet, le lieu où vous l'avez acheté, par exemple. Ce qui peut servir à de multiples choses. Par exemple, si le produit est défectueux, ça permettra d'identifier facilement d'où il vient, etc. Mais ça peut aussi, lorsque vous revenez dans le magasin, permettre de savoir que sur vous, vous portez des chaussures que vous avez déjà achetées là, ou un costume que vous avez acheté chez un concurrent, éventuellement, si on arrive à lire la puce du concurrent. Voilà, donc en réalité, le deuxième inconvénient, en dehors de cette modification des données, c'est leur lecture indépendamment de la volonté de celui qui porte la puce.
À Ceuta, certains sans-papiers sont emprisonnés dans le CETI, centre de rétention qui leur permet de sortir le jour de 9h à 21h en les obligeant à pointer à l'entrée et à la sortie du centre de rétention. Ils sont tous munis d'une carte d'identification et un lecteur de cartes et d'empreintes digitales certifie leur départ ou leur entrée dans le centre. Ici, à Ceuta, la carte Inès n'est pas un projet, mais une application concrète. Tous les prisonniers acceptent cette situation en attendant une réponse hypothétique de l'OFPRA à leur demande d'asile. Toute l'horreur horreur d'un système d'enfermement qui ne dit pas son nom, tout est fait pour que les prisonniers soient acteurs de leur propre emprisonnement.
C'est quelque chose de caractéristique de cette loi Cézéda. Là, il y a une grande mobilisation actuellement autour du fichier Edwige, mais l'esprit d'Edwige, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment pénétrer dans l'intimité des gens, l'administration qui décide avec qui vous pouvez vous marier, avec qui vous pouvez pas vous marier, avec qui vous pouvez aimer, qui vous pouvez pas, qui doit travailler, combien de temps, etc., etc. Puis ce fait de considérer les gens comme n'existant pas, comme des chiffres, s'immiscer dans la vie privée des gens. La violence que c'est. Il faut voir quand même que quand un étranger épouse une Française, ou une Française épouse un étranger, même je crois que ça se passe pour les résidents, hein, un résident et un étranger, eh bien, ils vont vérifier. Donc, vérifier, c'est quoi ? Ils viennent chez les gens au petit matin, ils se permettent d'aller fouiller dans l'armoire à pharmacie, d'ouvrir la commode pour voir s'il y a du linge. Enfin, je veux dire, faut s'imaginer ce que ça veut dire comme violation de l'intimité des personnes, quoi. C'est assez terrible, hein. Ce que je trouve le plus grave, hein, c'est cette suspicion généralisée. Cette suspicion, mais qu'on voit, hein, le Cézéda, c'est quelque chose de... Comment dire ? C'est une espèce de plan d'épreuve de la société, parce qu'on voit bien que tout ce qui se passe... Avec tout ce qui est testé sur les étrangers, s'étend ensuite au reste du pays.
Amendement numéro 2.
En catimini, les députés n'ont pas fait grande publicité à l'extension du fichier ADN, un vote discret au petit matin. Jusqu'à présent, le fichier ne concernait que les criminels sexuels. Si la loi est définitivement adoptée à l'automne prochain, bien d'autres ADN seront conservés.
Depuis plus d'un an, je suis en procès avec le tribunal de grande instance de Rouen pour refus de prélèvement biologique. C'est-à-dire que j'ai refusé de signer le papier qui est nécessaire à l'officier de police judiciaire pour procéder à un prélèvement ADN. Donc ça, c'était en mai 2007 et j'ai été jugé une première fois le 6 juin 2007 où j'ai été relaxé. En fait, le parquet général de Rouen a fait appel pendant l'été et j'ai été rejugé en appel le 23 juillet là, cette année. Et donc le délibéré a été reporté le 1er octobre. Donc le fichier qui s'appelle le FNAEG, donc c'est le fichier national automatisé des empreintes génétiques, c'est un truc qui a été créé officiellement en 98. C'est suite à l'arrestation de Guy Georges, donc qui avait... commis un certain nombre de crimes, crimes sexuels, etc. En fait, a été mis en place ce fichier qui regroupe les empreintes ADN de suspects et de coupables, enfin jugés coupables ou considérés comme tels, jusqu'à preuve du contraire. Et donc, en fait, le gros argument, c'était, comme d'habitude, le sale type qui peut vous tuer vos enfants, vous violer, etc. Après, je crois que ça a été étendu assez rapidement aux personnes condamnées pour violence. Et en fait, au fur et à mesure, c'est-à-dire les principales modifications, c'est en 2001-2003, c'est les lois sur la sécurité quotidienne et intérieure. Ça a été étendu à quasiment tout type de délit, de la dégradation à la violence, etc. Enfin, au final, je crois que les seuls délits qui sont pas concernés par ce prélèvement-là, c'est les délits financiers. Et en fait, donc de 98 à 2008 à aujourd'hui, ça a été étendu vraiment à tout un spectre d'infractions, de délits, de crimes. Et là, je crois qu'aujourd'hui, on est à 10% de la population qui sont fichés, quoi.
toutes les prisons, ouvrez la cage aux enfants.
Alors bon, je suis Anne-Marie Pons, je suis directrice d'une petite école à classe unique et j'ai eu affaire cette année à bas élèves. En fait, il y a une expérimentation qui est conduite depuis 2004 et qui va arriver à terme en 2009. Donc il faudra qu'en 2009, toutes les écoles soient affiliées à ce dispositif. Il s'agit d'un fichier central. Où toutes les données concernant un enfant seront répertoriées. Pour les parents, ça prend le visage d'une fiche à remplir en début d'année. Donc chaque année, les parents devaient remplir cette fiche sur la date de naissance de leur enfant, sur quelques petites informations sur le domicile, le numéro de téléphone, etc. Et depuis la rentrée 2007-2008, donc en Haute-Garonne, cette fiche sert aussi à renseigner une base de données. Alors, il y avait peut-être certaines écoles qui avaient déjà un logiciel, hein, parce que quand il y a beaucoup d'élèves dans une école, il y a nécessité de passer à l'informatique. Mais la différence entre le logiciel et la base de données, c'est que le logiciel reste dans l'école et que les données étaient réservées au directeur. Alors que la base de données va être partagée entre l'éducation nationale d'une part, notre hiérarchie, le directeur d'autre part, et la municipalité. La municipalité n'aura accès qu'aux données de l'état civil. Elle pourra même les entrer, puisque la particularité de cette base de données, c'est que la municipalité a un accès et que l'éducation nationale en a un autre, mais que ce qu'on appelle le fichier partagé, c'est que les données d'état civil sont accessibles par les deux parties, mairie et éducation nationale. Voilà. Donc de notre côté, au niveau de l'éducation nationale, on renseigne ensuite d'autres données, comme le parcours scolaire des enfants, comme les différentes évaluations auxquelles il pourrait avoir lieu. Alors je dis il pourrait puisqu'on est en cours de constitution de ce fichier, mais c'est justement les données qui pourraient suivre cet enfant sur toute sa scolarité. On nous annonce 15 ans, hein, l'enfant aurait un numéro comme un numéro de sécurité sociale, et d'année en année, on alimenterait ce dossier. Et pour l'instant, certains champs nous font peur, c'est-à-dire garder des informations, par exemple, sur les difficultés d'apprentissage de la lecture d'un enfant, qui pourraient ressortir quand il serait en sixième, quand il arriverait au niveau du BEPC, etc. Bon. Et d'autres, ce qui pend au nez aussi, c'est que d'autres champs puissent être rajoutés en cours de route. Les auditeurs ont peut-être entendu de la polémique qui a eu lieu à l'automne où on a enlevé le champ nationalité de bas élèves parce que c'était aussi un moyen de repérer les enfants des familles de sans-papiers. Voilà. Donc ce qu'on peut enlever, on peut le remettre à un autre moment. Actuellement sur la Haute-Garonne, on a aussi peut-être un souci de croisement avec un fichier de la CAF, de la Caisse d'allocation familiale. On se renseigne là-dessus pour savoir s'il n'y aurait pas croisement entre les fichiers.
Cette école de Nashville, dans le Tennessee, est la première aux États-Unis à s'être équipée de caméras de reconnaissance faciale biométriques.
On m'a juste dit, tu mets ta main, tu fais un code et puis voilà. On peut se poser beaucoup de questions sur l'avenir, ça peut faire peur.
Tu es arrivé à la rentrée il y a 2 ans ? On a trouvé la machine, moi au début j'ai pas trop aimé en fait. Mais bon, à force on s'est habitué, maintenant pour moi je fais plus trop attention, on va dire.
Il y a quelques années, on s'est aperçu que bizarrement, d'une manière assez absurde, dans des cantines scolaires, ils commençaient à mettre ces machines-là pour que les élèves passent à la cantine. Ce qui est assez bizarre, parce que c'est pas tellement rapide, ça coûte cher. Et on a cherché un peu pourquoi. Et on s'est aperçu qu'il existait un livre dans lequel le lobby des industriels de microélectronique avait rédigé des propositions au gouvernement, dans lequel il disait, Il se trouve que dans nos sociétés démocratiques avancées, la vidéosurveillance, la biométrie ne sont pas bien acceptées par la population. Et pour ça, nous préconisons l'installation de ces systèmes dans les écoles pour y habituer la jeune génération. Nous préconisons aussi, bien sûr, d'insérer ces systèmes de surveillance dans des jouets, dans des outils de consommation les plus courants, comme je sais pas, les clés USB, des choses comme ça, ce qui se fait maintenant, bien sûr. Et donc la réponse des conseils généraux, des gens qui gèrent les budgets des lycées et des établissements scolaires, c'était immédiat, c'était de faire apparaître, pousser comme des champignons, des cafétérias d'école avec des bornes biométriques. Donc nous, on a fait une première action qui était assez tapageuse, on a arrivé avec des marteaux, on a cassé ces machines en fait, en donnant un tract aux élèves qui étaient là. Voilà, et on essaye de continuer à travailler là-dessus, même si on a aussi un groupe dont on pourra parler tout à l'heure qui est plus spécifiquement qui critique la recherche scientifique, cette recherche qui donne les moyens à la société capitaliste que tout ça continue, quoi. Les moyens techniques de ses ambitions.
Faire accepter par la population les technologies utilisées, et parmi celles-ci, la biométrie, la vidéosurveillance et les contrôles. Plusieurs méthodes devront être développées par les pouvoirs publics et les industries pour faire accepter la biométrie. Elles devront être accompagnées d'un effort de convivialité, par une reconnaissance de la personne et par l'apport de fonctionnalités attrayantes. Éducation. Dès l'école maternelle, les enfants utilisent cette technologie pour rentrer dans l'école et en sortir, déjeuner à la cantine, et les parents ou leurs représentants s'identifieront pour aller chercher les enfants. Introduction dans des biens de consommation, de confort ou des jeux, téléphone portable, ordinateur, voiture, domotique, jeux vidéo. Donc ce que dit ce lobby, c'est les gens ne vont pas être d'accord, donc on va les habituer très tôt, on va les éduquer à ces technologies, et on comprend du coup, parce que l'intérêt c'est pas le contrôle des enfants dans la cantine. L'intérêt, c'est que les enfants apprennent le contrôle. C'est l'éducation au contrôle. Qu'ils s'habituent à ça, que ce soit banalisé. Je l'ai appris à l'école. On m'aura formé à ça. En primaire, on m'aura formé à ça. À l'école, j'ai l'habitude de la biométrie. J'ai l'habitude de la vidéosurveillance dans tous les espaces dans lesquels je suis. J'ai des puces RFID sur mon uniforme quand je suis à l'intérieur du lycée. À l'extérieur, ça peut être généralisé. J'ai été éduqué à ça. Donc, il y a une éducation au contrôle dont l'école se fait non seulement le complice, mais l'instrument majeur. C'est là qu'on a une logique de marché, une logique de marché qui va prospecter, faire accepter, et qui va remplacer aussi. Parce qu'on a d'énormes budgets. Des salles entières sont informatisées, des établissements entiers sont reconstruits et complètement équipés. Et par contre, on a du mal à donner 500 euros par mois pour des surveillants. C'est-à-dire que les postes qu'il y avait de surveillants payaient 500 euros par mois, sont aujourd'hui des postes qui ne sont pas renouvelés dans l'établissement dans lequel je suis. Donc, on en a embauché. Finalement, on ne les renouvelle pas, ils disparaissent. Et c'est finalement moins grave que les machines, puisque les dispositifs qui sont mis en place sont aussi mis en place pour surveiller un établissement qui est suréquipé aujourd'hui. Je voudrais dire que s'il y a des caméras de vidéosurveillance, c'est parce qu'il y a des ordinateurs et qu'il y a des écrans plats et que ça, on ne veut pas que ça soit volé. Et pour éviter le vol de ces ordinateurs, de ces écrans plats, etc., on met des dispositifs technologiques coûteux en plus.
C'était Citoyen Numérique, identifiez-vous. Avec dans l'ordre d'apparition, Célia Isoard et Cédric Baguini, co-auteurs de La tyrannie technologique. Karima, Toulousaine en pro aux erreurs administratives des acédiques. Un doctorant ayant écrit une thèse sur le bracelet électronique. Michel Alberganti, auteur de Sous l'œil des puces, la RFID et la démocratie. Un membre du collectif anti-ADN de Rouen. Anne-Marie Ponce, directrice d'école primaire dans la région toulousaine. Une militante du collectif Ouvriers gens d'ici et d'ailleurs, luttant pour le droit des personnes sans papiers sur Toulouse. Jean-Philippe Joseph, professeur dans un BTS à Alès. Une production Faidos Sonore de 2009, http://faidosonore.net. Ambiance musicale assurée par Anamatopée et Free Music Factory, tous deux sous Creative Commons.